secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'équipe de France de football, troisième de la Coupe du Monde 1958, qui s'est déroulée en Suède au mois de juin 1958. Depuis la fin de la guerre, le champion de France de football a subi la suprématie du Stade de Reims. Le club champenois a remporté le titre à 4 reprises en 1949, 1953, 1955 et 1958 et a surtout atteint la finale de la Coupe d'Europe en perdant de justesse contre le Real de Madrid le 13 juin 1956, 4 buts à 3. Il doit son succès grâce à un football chatoyant et très offensif, prôné par son entraîneur, Albert Batteux, nommé en 1951 et qui s'est inspiré du modèle hongrois. Il est mis en pratique par une génération exceptionnelle de joueurs, portés par Raymond Kopa, jeune ailier droit, et par le buteur Just Fontaine, qui a remplacé ce même Kopa, parti à Madrid au début de la saison 1956-1957. C'est donc tout logiquement que l'équipe rémoise a constitué l'ossature de la sélection nationale. Mieux, la Fédération française de football a nommé en 1955 Albert Batteux à leur tête. Des millions de Français ont suivi avec ferveur les matchs de la Coupe du Monde 1958 à la radio, mais également à la télévision. La Coupe du Monde est pour la première fois diffusée en Mondovision. L'Italie et l'Uruguay sont les deux absents de marque. Les 4 sélections nationales qui composent le Royaume-Uni sont qualifiées, mais l'équipe d'Angleterre a été tragiquement décimée suite au crash au-dessus de Munich de l'avion qui transporte la délégation du club de Manchester United le 6 février 1958, faisant 23 victimes. Les Français rencontrent en demi-finale les Brésiliens. Il n'a malheureusement fallu que 73 secondes pour que le Brésilien Vava n'ait ouvert le score et démontré les failles de la défense française. À la 7e minute, Kopa a réalisé un festival avant de servir l'inévitable Fontaine pour l'égalisation française. Vexés d'avoir encaissé leur premier but dans le tournoi, les Brésiliens ont accéléré et profité d'un fait de jeu pour faire la différence. Fauché violemment par Vava, Robert Jonquet, le capitaine, est grièvement blessé à la jambe, fracture de la tête du péroné à la 34e minute. En 1958, les remplacements sur blessure sont encore interdits. Soigné sur la touche, Jonquet est revenu courageusement sur le terrain en boitillant. La France est en réalité réduite à 10 et a perdu surtout en Jonquet son leader. Le Brésil en a immédiatement profité. But de Didi, 2-1 pour le Brésil à la mi-temps. La seconde mi-temps s'est alors réduite à un long calvaire pour les Français et le talent hors du commun de Pelé, auteur d'un triplé historique en 23 minutes, de la 52e à la 75e minute, a fait le reste. La France a sauvé l'honneur grâce à Piantoni, ramenant le score à des proportions plus équitables, 5-2. Cette demi-finale France-Brésil de 1958 va donc faire l'histoire. En finale, le Brésil battra la Suède 4-2, et la France finira troisième, battant l'Allemagne 6-3, Fontaine réalisant un quadruplé d'anthologie. Le buteur du Stade de Reims finit en tête du classement des buteurs avec un total de 13 buts. Ce record est entré dans la légende de la Coupe du Monde. La composition de l'équipe de France était la suivante. Gardien, Claude Abbesse de l'AS Saint-Étienne. Défenseur, Raymond Kneibel de l'AS Monaco. André Leron de l'Olympique Lyonnais. Robert Jonquet du Stade de Reims. Milieu de terrain, Armand Pinverne du Stade de Reims et Jean-Jacques Marcel de l'Olympique de Marseille. Attaquant, Mariam Wiśniewski du Racing Club de Lens, Raymond Kopa du Real de Madrid, Just Fontaine du Stade de Reims, Roger Piantoni du Stade de Reims et Jean-Vincent du Stade de Reims. Raymond Kopajewski, dit Raymond Kopa, est né le 13 octobre 1931 à Neuilly-Mines, dans le Pas-de-Calais, et mort le 3 mars 2017 à Angers, dans le Maine-et-Loire. Raymond Kopa est né dans une famille de mineurs. Ses grands-parents paternels sont venus de Pologne, en France, en 1919, avec 4 enfants, dont le père de Raymond, François, alors âgé de 13 ans. L'installation se fait dans le Pas-de-Calais, à Neuilly-Mines, entre Lens et Béthune, dans une région minière. Comme la majeure partie des quelques 6000 autres immigrants polonais de l'après-guerre, les Kopajewski préservent leur langue et leur forte foi catholique, alors que les plus jeunes membres de la famille s'intègrent dans le mode de vie français. Sa mère, Hélène, d'origine polonaise, vient elle aussi d'une famille de mineurs depuis au moins 3 générations. En 1945, Kopa cherche une place d'apprenti électricien afin d'échapper à la mine, mais sans succès. Il travaille donc à la mine, fosse numéro 3, 612 mètres sous terre, les 2 années et demie suivantes en tant que rouleur. Lors d'un accident de travail en octobre 1947, son pouce et l'index de sa main gauche sont fracassés et en partie amputés à la suite d'un éboulement. Il commence le football en amateur dans le club de sa ville natale, l'US Neuilly-Mines. Après avoir terminé 2e du concours du jeune footballeur 1949, Raymond Kopa est repéré par le SCO d'Angers. Il y joue 2 saisons et devient Kopa avant de partir pour le Stade de Reims. Entre 1951 et 1956, il remporte de nombreux trophées sur la scène nationale avec l'équipe champenoise avant d'échouer en finale de la Coupe d'Europe contre le Real de Madrid en 1956, quelques semaines avant d'être transféré dans le club espagnol. Il joue 3 saisons à Madrid, ne perdant qu'une seule rencontre à domicile et remportant 3 Coupes d'Europe et 2 Championnats d'Espagne. Après 3 années en Espagne, il choisit de revenir à Reims, où il reste jusqu'à la fin de sa carrière, en 1968. En équipe de France, Raymond Kopa joue 45 matchs et inscrit 18 buts entre 1952 et 1962. Il participe à la Coupe du Monde 1954, puis celle de 1958. À 6 reprises, il est capitaine de l'équipe nationale. Joueur vedette de son époque, Raymond Kopa utilise son image pour militer pour les droits des joueurs de football et lutte pour l'obtention du contrat à temps. Il utilise également son image et son nom pour réussir sa reconversion professionnelle. À la tête du groupe Kopa, il devient homme d'affaires et le reste jusqu'à sa retraite en 1991. Il a été aussi consultant télé et radio. Juste Louis Fontaine, dit Justo, est né le 18 août 1933 à Marrakech, au Maroc, au temps du protectorat français, d'un père français, fonctionnaire à la régie des tabacs, et d'une mère espagnole qui s'occupe des 7 enfants du couple. Juste Fontaine doit son surnom Justo à sa mère. Il joue au football. Ses idoles sont Larbi Ben Barek et Mario Zatelli. Révélé à l'USM de Casablanca, au Maroc, puis à l'OGC Nice, il connaît l'apogée de sa carrière au Stade de Reims, où il joue de 1956 à 1962, avec lequel il atteint la finale de la Coupe des clubs champions européens en 1959. En 1956, il rejoint le Stade de Reims pour pallier le départ de Raymond Kopa. Et en fin d'année, le 7 octobre 1956, il est pour la première fois capitaine de l'équipe de France, qui perd contre le 11 d'or hongrois, qui joue là son dernier match avant l'insurrection de Budapest en novembre 1956. Après sa retraite de joueur, Fontaine devient le sélectionneur de l'équipe de France en 1967, mais est remplacé après 2 défaites en matchs amicaux. En 1973, il devient l'entraîneur du Paris Saint-Germain, le faisant monter en première division en 1974. Il entraîne ensuite le Toulouse Football Club durant la saison 1978-1979 et de 1979 à 1981. Retour sur l'année 1958. On est en pleine guerre d'Algérie. Le 13 mai à Alger, c'est la grande manifestation en faveur de l'Algérie française. Le 1er juin, le général de Gaulle prend le pouvoir et fonde la 5e République dont la Constitution accorde un fort pouvoir au président de la République. En avril 1958, quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde, 10 footballeurs algériens évoluant dans le championnat de France décident de fuir clandestinement la France pour répondre à l'appel des dirigeants du FLN et ainsi former ce 11 de l'indépendance qui se rassemble à Tunis. Parmi ces joueurs, 3 d'entre eux étaient susceptibles de représenter la France en juin 1958 lors de la Coupe du Monde en Suède. Abdelaziz Ben Tifour, le milieu de l'AS Monaco, Rachid Melloufi, l'attaquant de l'AS Saint-Étienne, et Mustapha Zitoumi, défenseur de l'AS Monaco. Ils laissent tomber leur carrière ou la mettent entre parenthèses. Au total, 33 joueurs algériens évoluant en Division 1 ou Division 2 française décident de rejoindre l'équipe du gouvernement provisoire de la République algérienne. Le FLN fait du football un vecteur de communication et de nationalisme. L'équipe du FLN affronte l'URSS, la Palestine, en tout 80 matchs amicaux entre 1958 et 1962. On s'arrêtera donc sur 2 joueurs emblématiques. Rachid Melloufi est né le 12 août 1936 à Sétif, au lieu de la révolte algérienne en 1945. En 1957, il devient champion de France avec Saint-Étienne, pour lequel il inscrit 25 buts. Titulaire indiscutable à Saint-Étienne, il porte 4 fois le maillot de l'équipe de France entre 1956 et 1957. Le 14 juillet 1957, à Buenos Aires, il est également sacré champion du monde avec l'équipe de France militaire. Le 14 avril 1958, Melloufi rejoint la Tunisie via la Suisse afin de participer à la création de l'équipe du FLN, puis de l'équipe d'Algérie. Pour la France, Melloufi, en tant que militaire, est un déserteur. En 1962, la guerre d'Algérie s'achève et l'équipe du FLN se dissout en mars 1962. Melloufi ne peut pas revenir tout de suite en France et se fait engager aux Servettes de Genève par l'ancien et futur entraîneur de Saint-Étienne, Jean Snella, qui était l'adjoint de Batteux en 1958. De 1963 à 1968, Melloufi revient jouer dans le club stéphanois, remportant le championnat et la Coupe de France. Il devient ensuite entraîneur-joueur au Sporting Club de Bastia jusqu'en 1970, avant de connaître une carrière de sélectionneur. Il sera le sélectionneur de l'Algérie au Mondial espagnol de 1982, qui voit l'Algérie battre l'Allemagne 1-0. C'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Un pays africain bat un pays européen. On retient cela alors que le printemps berbère et les révoltes populaires de 1980 en Algérie sont réprimées. Il est même brièvement président de la Fédération algérienne de football en 1988. Il faut noter que Rachid Melloufi n'a jamais reçu de carton durant toute sa carrière sportive. Il a marqué de son talent le football de son époque, mais aussi influencé la génération stéphanoise de 1976. Mustapha Zitouni est né le 19 octobre 1928 à Alger et mort le 5 janvier 2014 à Nice. Mustapha Zitouni voit le jour au sein d'une modeste famille algéroise. Sa mère est infirmière et éduque seule ses 6 enfants à la suite de la mort de son époux. Entre elle et Mustapha Zitouni, le conflit est perpétuel. C'est pourquoi le jeune garçon multiplie les fugues dans les rues d'Alger avec sa bande d'amis, même si sa mère finit toujours par le retrouver. En 1953, il fait le choix de rejoindre l'AS Cannes à l'âge de 25 ans, ce qui est tardif pour entrer dans le monde professionnel. Devant ses performances exemplaires, Zitouni rejoint Monaco et devient le patron de la défense monégasque. C'est pour cela qu'à presque 30 ans, il est logiquement récompensé par une sélection en équipe de France qu'il rejoint avec ses compatriotes Rachid Melloufi, Saïd Brahimi et Abdelaziz Ben Tifour. Ainsi, le 6 octobre 1957, il enfile pour la première fois le maillot bleu lors de la défaite 2-0 de la France à Budapest contre la Hongrie. Aux côtés de Jules Fontaine ou encore Raymond Kopa, l'avenir en équipe de France semble radieux pour Zitouni, alors que se profile la Coupe du Monde de football de 1958 en Suède. L'entraîneur de l'équipe de France, Albert Batteux, souhaite faire de lui l'une des pièces maîtresses de son équipe. Zitouni parvient même à reléguer sur le banc de touche le capitaine et pilier de l'équipe de France, mais aussi joueur de la grande équipe du Stade de Reims, Robert Jonquet. Mais le 16 avril 1958, Mustapha Zitouni doit jouer avec l'équipe de France contre la Suisse. il ne viendra pas. Dans la nuit du 13 avril, après le match Monaco-Angers, il a prétexté qu'il allait boire un verre à Nice pour prendre le train en menton et fuir vers l'Italie. Le FLN a préparé cette opération depuis des mois. En 1962, date de l'indépendance algérienne, Mustapha Zitouni a 34 ans. À la différence de Rachid Bekloufi, qui retourne à Saint-Étienne, sa carrière en Europe est terminée. Il décide alors de rester en Algérie et de mettre son talent au service du football algérien. Sa carrière dans le football terminée, Zitouni retourne sur la Côte d'Azur. Il s'est reconverti en travaillant pour la compagnie aérienne nationale algérienne à Nice, Air Algérie. Il cesse son activité en 1994, à l'âge de 66 ans. Il n'a pas été épargné par les aléas de l'existence. Il a connu la grande douleur de perdre deux de ses quatre filles. De plus, il contracte depuis 2000 la maladie d'Alzheimer. Mustapha Zitouni s'éteint le 5 janvier 2014 à Nice, à l'âge de 85 ans.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.